On le sait dernièrement, c'est la folie des achats de propriétés. Hein. Dans la dernière année, le marché est particulièrement actif. Puis ça peut être facile dans ce temps-là d'oublier tous les frais qu'on a à débourser quand on achète une propriété. Dans la chronique précédente, Maître Geneviève Graton du Centre de justice de proximité de l'Outaouais nous a parlé de ces frais-là, a mentionné les droits de mutation aussi. Elle nous revient cette semaine pour nous parler spécifiquement de cette somme d'argent qu'on a à débourser. Geneviève, bonjour.
Bonjour Sébastien.
Ben allons-y avec les définitions d'usage. Qu'est-ce que c'est un droit de mutation?
Eh bien, je trouvais ça important d'en parler plus spécifiquement parce que le droit de mutation semble vraiment mystérieux aux yeux de plein de gens. Les droits de mutation, ça peut être défini comme un impôt auquel sont soumis les ventes de biens immobiliers en vertu de la loi sur les droits de mutation immobilière du Québec. On attribue généralement à Jean Bienvenu, ministre dans le gouvernement de Bourassa dans les années 70, l'origine de la loi. Mais c'est faux. Et on parle du terme « taxe de bienvenue » qui est passé dans le langage courant, alors qu'il s'agissait plutôt du ministre Guy Tardif du Parti québécois qui en aurait la paternité. Ça, c'était pour le petit moment d'histoire à la Laurence Turcot. Mais les droits de mutation sont dus par l'acquéreur qui achète le bien immobilier et sont calculés au moment de la signature de l'acte de vente et du paiement du prix de vente chez le notaire. Ils vont apparaître à la fin de l'acte d'achat de la propriété. Vous allez donc les voir d'inscrits et le montant sur lequel est basé les calculs. C'est le notaire qui va faire ce calcul-là en se basant sur la loi. Okay. Et comme je le mentionnais, seulement le nouveau propriétaire doit payer le droit de mutation. Donc, si vous rachetez la part de votre ex-conjoint de la résidence familiale, vous devrez, sauf exception, payer un droit sur ce transfert. Mm-hmm. Vous devrez de la même façon payer un droit de mutation si vous héritez du chalet de votre oncle. Celui qui cède l'immeuble peut aussi être tenu au paiement de la taxe, notamment s'il tente de contourner l'application de la loi. Donc, à ne pas faire. J'ai pas les données pour Maniwaki spécifiquement, mais dans une ville comme Gatineau, en 2017-2018, ça représentait 20 400 000 $.
OK.
Pour 2019-2020, le montant était monté à 28 700 000 $.
Oh, belle augmentation!
Donc, oui, c'est ça, une augmentation de 41. Donc, on peut penser que pour l'année qui vient de se terminer, avec une hausse immobilière de 27,9 en moyenne, il va aussi y avoir une belle augmentation pour les villes et les municipalités.
Mais parlons calcul, ça se calcule comment, justement, les droits de mutation?
Oui, on va démystifier ça, là, parce que ça semble vraiment pas évident vite comme ça, mais c'est somme toute assez simple. Les droits à payer sont calculés en appliquant un taux sur la valeur la plus élevée entre la valeur marchande de la propriété et la valeur de l'évaluation municipale. Puis, je le mentionne parce que il y en a beaucoup qui vont avoir à l'esprit de mettre un prix de vente peut-être plus bas pour éviter les droits de mutation plus bas que, que l'évaluation municipale. Mais non, c'est vraiment sur le plus élevé des deux.
OK.
Donc, avant 2018, la première tranche de 50 000 était imposée à un taux de 0,5 donc 250 $. La partie allant de 50 000 à 250 000 est de 1 donc 2000 $. Au-dessus de 250 000, c'est le taux de 1,5 qui s'appliquait. À compter de 2018, Québec a permis aux villes de créer un échelon supérieur. Toute valeur au-dessus de 500 000 pourrait désormais être imposée à un taux minimal de 3. Mais la plupart des villes et municipalités n'ont pas emboîté le pas.
OK. Puis c'est quoi l'impact concrètement là, de ce calcul-là?
Je vais vous donner deux exemples pour deux prix de vente différents, en fait très différents. Donc, pour la première propriété, si la valeur est de 260 000 $, le droit à payer sera de 2373,50. Donc, toujours notre 250 $ sur la première tranche. Mm-hmm. Donc, le 2000 $ sur la troisième tranche et 1,5 sur la balance.
OK.
Il y a de moins en moins de propriétés à ce prix-là. Même lorsqu'on s'éloigne des grands centres, c'est de plus en plus élevé. Là, je vais aller dans un autre spectre avec une maison de 600 000. Donc, en 2021, la même maison se vendait environ 400 000 en 2018.
Mm-hmm.
L'acheteur, donc, de la maison va payer presque le double, donc 9 000 $ environ pour une maison de 600 000.
C'est quand même pas mal.
Oui. Donc, même si vous ne payez pas la somme directement chez le notaire au moment de la transaction, il est important de la prévoir parce que lorsque vous aurez à la payer, ça va faire mal.
Justement, c'est quand ce moment-là où on devra les payer, les droits de mutation?
Et selon la loi, vous avez 30 jours pour payer le compte.
Okay.
Au-delà des délais, des intérêts vont s'ajouter à ce montant-là. Mais je mets un bémol parce que, comme ce sont les villes et les municipalités qui traitent cette taxe-là, la rapidité du traitement dépendra de la capacité de la ville ou de la municipalité à produire le compte de taxe. Donc, ainsi, à certains endroits, vous allez la recevoir très rapidement par la poste, comme un compte de taxe habituel, et à d'autres endroits, ça va être beaucoup plus long. On peut parler même de plusieurs mois.
Okay.
Mais je voudrais vraiment pas que vos auditeurs comptent sur ce délai pour penser qu'ils ont du temps pour accumuler la somme, puisqu'à partir de la réception, vous aurez toujours le 30 jours pour la payer. 30 jours, ça revient vite là, pour une grosse somme comme ça.
Puis, est-ce qu'on pourrait avoir des exonérations de paiement de droits de mutation?
Oui, heureusement. Mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en
okay.
a. La loi prévoit un certain nombre de situations où le nouveau propriétaire est exonéré du paiement du droit de mutation. Donc, la majorité des cas d'exonération visent les transferts qui interviennent entre certains membres d'une même famille ou encore les transferts qui n'impliquent pas un réel changement dans le contrôle du bien. On va voir un des exemples. Il y a une exonération si le transfert a lieu en ligne directe ascendante avec nos parents et grands-parents. Donc, par exemple, si... descendante avec nos enfants et petits-enfants. Mm-hmm. Donc, par exemple, votre père et votre mère vous vendent la propriété familiale, il va y avoir une exonération. Ou si grand-papa donne à son petit-fils son chalet de 500 000, le petit-fils aura aucun droit de mutation à payer.
OK. Puis qu'est-ce qui se passe entre les conjoints? On l'a évoqué rapidement tantôt, mais précisément.
Oui, bien, il va y avoir une exonération lorsque le transfert a lieu entre conjoints, c'est-à-dire entre époux ou entre personnes unies civilement.
Okay.
Les conjoints de fait sont également visés par une exonération, mais à condition qu'ils aient vécu maritalement ensemble pendant plus de 12 mois avant le transfert. Donc, c'est vraiment important de faire la nuance entre conjoints de fait et entre Jean-Marie.
Mm-hmm.
Pour un couple, il sera donc avantageux d'attendre encore quelques mois avant de conclure la vente. Là, si vous voulez vendre la moitié de votre propriété à votre nouveau conjoint, attendez une année.
Mm-hmm.
De toute façon, c'est bon en général.
Oui, oui pour d'autres raisons.
Oui, c'est ça. Mais qu'arriverait-il au moment de la séparation? Un des conjoints veut racheter, par exemple, la part de l'autre. Donc, pour les gens qui étaient mariés, la date du divorce est importante. Si le transfert a lieu avant, il va y avoir exonération. S'il y a lieu après, il faut payer la taxe.
Okay.
Pour les conjoints de fait, le transfert est exonéré dans la mesure où il a lieu dans les 12 mois suivant la fin de la vie commune. Cependant, il devra payer un frais supplétif.
Puis qu'est-ce que c'est ça, un droit, un frais supplétif?
Ça, Sébastien, c'est tellement important. Parce que les gens, lorsqu'on parle d'exonération, s'attendent à ne recevoir aucun compte, aucune facture subséquente à la transaction. Donc, lorsqu'un immeuble change de propriétaire, la municipalité doit modifier son rôle d'évaluation. Dans la majorité des cas d'exonération, la municipalité est autorisée par la loi à adopter un règlement qui lui permettra de percevoir un droit supplétif, donc un montant maximal de 200 $. Il faut vérifier si ce règlement est en vigueur au moment du transfert dans la municipalité concernée. Mais d'expérience, j'ai jamais vu de cas où le droit n'était pas prélevé. Et c'est somme toute logique que la municipalité le fasse parce que c'est un frais administratif.
Okay.
La loi prévoit également des pénalités lorsque des transferts successifs ont été faits afin d'éviter le paiement du droit de mutation. Donc, supposons on veut vendre à son frère, mais pour éviter le frais, on fait un premier transfert à la mère qui va transférer à son fils.
OK, oui, oui.
Oui, on fait d'une façon ce qu'on pense ce qu'on peut pas faire d'une autre façon.
Mm-hmm.
Donc, la loi prévoit qu'un délai de 2 ans de détention est généralement requis entre chaque transfert. Comme toute loi fiscale, la loi concernant les droits sur les mutations immobilières comporte un principe, des exceptions et des exceptions aux exceptions.
Okay.
Donc, oui, le notaire connaît bien la loi. puisqu'il doit l'appliquer pour chacune des transactions immobilières qu'il reçoit. Donc, n'hésitez pas à le consulter si vous avez des questions dans le cadre de votre transaction.
Puis, si l'achat est d'une valeur inférieure à 5 000 $ qu'est-ce qui est prévu?
Enfin, la loi prévoit une exonération lorsque la valeur du bien immobilier est inférieure à 5 000, mais on s'entend que de nos jours, de telles propriétés se font rares. Mais on peut penser à un transfert entre voisins d'un bout de terrain afin de légaliser un empiétement d'un garage, légaliser une habitation paisible et continue d'un bout de terrain.
Donc.
Ça se voit beaucoup d'ailleurs dans la région de Maniwaki, Blue Sea, Gracefield, lorsque un bout de terrain a été un peu oublié, puis il est habité depuis très longtemps par l'autre voisin. Puis c'est une situation, dans le fond, on régularise un état de fait.
Puis dans ce cas-là, donc, il n'y a pas de frais de mutation, si c'est en bas de 5 000 $
Mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir
un frais supplétif.
Oui, c'est ça, un droit supplétif. Exactement.
Geneviève, on arrive à la fin de l'entretien. Est-ce que les auditeurs peuvent téléphoner s'ils ont des questions au Centre de justice de proximité de l'Outaouais?
Ben oui, parce que je pense que vos auditeurs ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de détails à dire sur les droits de mutation. Peut-être même vous, Sébastien. Donc, pour bien comprendre l'application de la loi, venez nous visiter ou appelez-nous au 1-844-606-4600. C'est un numéro sans frais pour plus d'informations. Puis vous pouvez nous consulter aussi sur Facebook et Instagram.
Maître Geneviève Gratton, directrice du Centre de justice de proximité de l'Outaouais, un grand merci pour ces précisions et ces explications. Puis on se reparle dans deux semaines.
Toujours un plaisir, Sébastien. Merci beaucoup.